Mais bien que Richelieu crût être chrétien, et sans doute sincèrement, sa conclusion était tout autre. Elle était que l'homme responsable du salut de l'État et ses subordonnés doivent employer à cette fin tous les moyens efficaces sans aucune exception, et en y sacrifiant au besoin leur propre personne, leur souverain, le peuple, les pays étrangers et toute espèce d'obligation. C'est, avec beaucoup plus de grandeur, la doctrine de Maurras. Politique d'abord. Mais Maurras, très logiquement, est athée. Ce cardinal, en posant comme un absolu une chose dont toute la réalité réside ici-bas, commettait le crime d'idolâtrie. D'ailleurs, le métal, la pierre et le bois ne sont pas vraiment dangereux. L'objet du véritable crime d'idolâtrie est toujours quelque chose d'analogue à l'État. C'est ce crime que le diable a proposé au Christ en lui offrant les royaumes de ce monde. Le Christ a refusé. Richelieu a accepté. Il a eu sa récompense. Mais il a toujours cru n'agir que par dévouement, et en un sens, c'était vrai. Son dévouement à l'État a déraciné la France. Sa politique était de tuer systématiquement toute vie spontanée dans le pays pour empêcher que quoi que ce soit pût s'opposer à l'État. Si son action en ce sens semble avoir eu des limites, c'est qu'il commençait et qu'il était assez habile pour procéder graduellement. Il suffit de lire les dédicaces de Corneille pour sentir à quel degré de servilité ignoble il avait su abaisser les esprits. Depuis, pour préserver de la honte nos gloires nationales, on a imaginé de dire que c'était simplement le langage de politesse de l'époque. Mais c'est un mensonge. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à lire les écrits de Théophile de Viau. Seulement, Théophile est mort prématurément des conséquences d'un emprisonnement arbitraire, au lieu que Corneille a vécu très vieux. La littérature n'a d'intérêt que comme signe, mais elle est un signe qui ne trompe pas. Le langage servile de Corneille montre que Richelieu voulait asservir les esprits eux-mêmes. Non pas à sa personne, car dans son abnégation de soi-même, il était probablement sincère, mais à l'État représenté par lui. Sa conception de l'État était déjà totalitaire. Il l'a appliqué autant qu'il pouvait en soumettant le pays, dans toute la mesure où le permettaient les moyens de son temps, à un régime policier. Il a ainsi détruit une grande partie de la vie morale du pays. Si la France s'est soumise à cet étouffement, c'est que les nobles l'avaient tellement désolée de guerres civiles absurdes et atrocement cruelles qu'elle a accepté d'acheter la paix civile à ce prix. Après l'explosion de la Fronde, qui, en ses débuts, par bien des points, annonçait 1789, Louis XIV s'installa au pouvoir dans un esprit de dictateur bien plutôt que de souverain légitime. C'est ce qu'exprime sa phrase « L'État, c'est moi ». Ce n'est pas là une pensée de roi. Montesquieu a très bien expliqué cela, à mots couverts. Mais ce qu'il ne pouvait encore apercevoir à son époque, c'est qu'il y a eu deux étapes dans la déchéance de la monarchie française. La monarchie, après Charles V, a dégénéré en despotisme personnel. Mais à partir de Richelieu, elle a été remplacée par une machine d'État à tendance totalitaire, qui, comme le dit Marx, non seulement a subsisté à travers tous les changements, mais a été perfectionnée et accrue par chaque changement de régime. Pendant la Fronde et sous Mazarin, la France, malgré la détresse publique, a respiré moralement. Louis XIV l'a trouvée pleine de génies brillants qu'il a reconnus et encouragés. Mais en même temps, il a continué, avec un degré d'intensité bien plus élevé, la politique de Richelieu. Il a ainsi réduit la France, en très peu de temps, à un état moralement désertique, sans parler d'une atroce misère matérielle. Si on lit Saint-Simon, non pas à titre de curiosité littéraire et historique, mais comme un document sur la vie que des êtres humains ont réellement vécue, on est pris d'horreur et de dégoût, devant d'une telle intensité de mortel ennui, une bassesse si générale d'âme, de cœur et d'intelligence. La Bruyère, les lettres de Liselotte, tous les documents de l'époque, lus dans le même esprit, donnent la même impression. En remontant même un peu plus haut, on devrait bien penser par exemple que Molière n'a pas écrit le Misanthrope pour s'amuser. Le régime de Louis XIV était vraiment déjà totalitaire. La terreur, les dénonciations ravageaient le pays. L'idolâtrie de l'État, représentée par le souverain, était organisée avec une impudence qui était un défi à toutes les consciences chrétiennes. L'art de la propagande était déjà très bien connu, comme le montre l'aveu naïf du chef de la police à Liselotte concernant l'ordre de ne laisser paraître aucun livre sur aucun sujet qui ne contînt l'éloge outré du roi. Sous ce régime, le déracinement des provinces françaises, la destruction de la vie locale, atteignit un degré bien plus élevé. Le XVIIIe siècle fut une accalmie. L'opération par laquelle la Révolution substitua au roi la souveraineté nationale n'avait qu'un inconvénient, c'est que la souveraineté nationale n'existait pas. Comme pour la jument de Roland, c'était là son seul défaut. Il n'existait en fait aucun procédé connu pour susciter quelque chose de réel correspondant à ces mots. Dès lors, il ne restait que l'État, au bénéfice de qui tournait naturellement la ferveur pour l'unité. Unité ou la mort. Surgit autour de la croyance à la souveraineté nationale. D'où, nouvelle destruction dans le domaine de la vie locale. La guerre aidant, la guerre est dès le début le ressort de toute cette histoire, l'État, sous la Convention et l'Empire, devint de plus en plus totalitaire. Louis XIV avait dégradé l'Église française en l'associant au culte de sa personne et en lui imposant l'obéissance même en matière de religion. Cette servilité de l'Église envers le souverain fut pour beaucoup dans l'anticléricalisme du siècle suivant. Mais quand l'Église commit l'erreur irréparable d'associer son sort à celui des institutions monarchiques, elle se coupa de la vie publique. Rien ne pouvait mieux servir les aspirations totalitaires de l'État. Il devait en résulter le système laïque, prélude à l'adoration avouée de l'État comme tel, en faveur aujourd'hui. Les chrétiens sont sans défense contre l'esprit laïque, car ou ils se donnent entièrement à une action politique, une action de parti, pour remettre le pouvoir temporel aux mains d'un clergé ou de l'entourage d'un clergé, ou bien ils se résignent à être eux-mêmes irreligieux dans toute la partie profane de leur propre vie, ce qui est généralement le cas aujourd'hui, à un degré bien plus élevé que les intéressés eux-mêmes n'en ont conscience. Dans les deux cas, est abandonnée la fonction propre de la religion, qui consiste à imprégner de lumière toute la vie profane, publique et privée, sans jamais aucunement la dominer. Pendant le XIXe siècle, les chemins de fer firent d'affreux ravages dans le sens du déracinement. George Sand voyait encore dans le Berry des coutumes, peut-être vieilles de beaucoup de milliers d'années, dont le souvenir même aurait disparu sans les notes sommaires qu'elle a prises. La perte du passé, collective ou individuelle, est la grande tragédie humaine et nous avons jeté le nôtre comme un enfant déchire une rose. C'est avant tout pour éviter cette perte que les peuples résistent désespérément à la conquête. Mais le phénomène totalitaire de l'État est constitué par une conquête que les pouvoirs publics exécutent sur le peuple dont ils ont la charge, sans pouvoir leur éviter les malheurs dont toute conquête est accompagnée, afin d'avoir un meilleur instrument pour la conquête extérieure. C'est ainsi que se sont passées les choses, jadis en France, et plus récemment en Allemagne, sans compter la Russie. Mais le développement de l'État épuise le pays. L'État mange la substance morale du pays en vie, s'en engraisse, jusqu'à ce que la nourriture vienne à s'épuiser, ce qui le réduit à la langueur par la famine. La France en était arrivée là. En Allemagne, au contraire, la centralisation étatique est toute récente, de sorte que l'État y possède toute l'agressivité que donne une surabondance de nourriture de haute qualité énergétique. Quant à la Russie, la vie populaire y a un tel degré d'intensité qu'on se demande si, en fin de compte, ce ne sera pas le peuple qui mangera l'État, ou plutôt le résorbera. La Troisième République, en France, était une chose bien singulière. Un de ses traits les plus singuliers est que toute sa structure, hors le jeu même de la vie parlementaire, provenait de l'Empire. Le goût des Français pour la logique abstraite les rend très susceptibles d'être dupés par des étiquettes. Les Anglais ont un royaume à contenu républicain. Nous avions une république à contenu impérial. Encore, l'Empire lui-même se rattache-t-il, par-dessus la Révolution, par des liens sans discontinuité, à la monarchie. Non pas l'antique monarchie française, mais la monarchie totalitaire, policière du XVIIe siècle. Le personnage de Fouché est un symbole de cette continuité. L'appareil de répression de l'État français a mené, à travers tous les changements, une vie sans trouble ni interruption, avec une capacité d'action toujours accrue. De ce fait, l'État en France était resté l'objet des rancunes, des haines, de la répulsion, excité jadis par une royauté tournée en tyrannie. Nous avons vécu ce paradoxe d'une étrangeté telle qu'on ne pouvait même pas en prendre conscience. Une démocratie où toutes les institutions publiques, ainsi que tout ce qui s'y rapporte, étaient ouvertement haïs et méprisés par toute la population. Aucun Français n'avait le moindre scrupule à voler ou escroquer l'État en matière de douane, d'impôts, de subventions, ou en toute autre matière. Il faut excepter certains milieux de fonctionnaires, mais eux faisaient partie de la machine publique. Si les bourgeois allaient beaucoup plus loin que le reste du pays dans les opérations de ce genre, c'est uniquement parce qu'ils avaient beaucoup plus d'occasions. La police est en France l'objet d'un mépris tellement profond que pour beaucoup de Français, ce sentiment fait partie de la structure morale éternelle de l'honnête homme. Guignol est du folklore français authentique qui remonte à l'ancien régime et n'a pas vieilli. L'adjectif « policier » constitue en français une des injures les plus sanglantes dont il serait curieux de savoir s'il y a des équivalents dans d'autres langues. Or, la police n'est pas autre chose que l'organe d'action des pouvoirs publics. Les sentiments du peuple français à l'égard de cet organe sont restés les mêmes qu'au temps où les paysans étaient obligés, comme le constata Rousseau, de cacher qu'ils possédaient un peu de jambon. De même, tout le jeu des institutions politiques était un objet de répulsion, de dérision et de mépris. Le mot même de politique s'était chargé d'une intensité de signification péjorative incroyable dans une démocratie. C'est un politicien. Tout cela, c'est de la politique. Ces phrases, exprimait des condamnations sans appel. Aux yeux d'une partie des Français, la profession même de parlementaire, car c'était une profession, avait quelque chose d'infamant. Certains Français étaient fiers de s'abstenir de tout contact avec ce qu'ils nommaient la politique, excepté le jour des élections, ou y compris ce jour. D'autres regardaient leurs députés comme une espèce de domestique, un être créé et mis au monde pour servir leur intérêt particulier. Le seul sentiment qui tempéra le mépris des affaires publiques était l'esprit de parti, chez ceux du moins que cette maladie avait contaminé. On chercherait vainement un aspect de la vie publique qui ait excité chez les Français le plus léger sentiment de loyauté, de gratitude ou d'affection. Au beau temps de l'enthousiasme laïque, il y avait eu l'enseignement. Mais depuis longtemps, l'enseignement n'est plus, aux yeux des parents comme des enfants, qu'une machine à procurer des diplômes, c'est-à-dire des situations. Quant aux lois sociales, jamais le peuple français, dans la mesure où il en était satisfait, ne les a regardées comme autre chose que comme des concessions arrachées à la mauvaise volonté des pouvoirs publics par une pression violente. Aucun autre intérêt ne tenait lieu de celui qui manquait aux affaires publiques. Chacun des régimes successifs ayant détruit à un rythme plus rapide la vie locale et régionale, elle avait finalement disparu. La France était comme ces malades dont les membres sont déjà froids et dont le cœur seul palpite encore. Presque nulle part, il n'y avait de pulsation de vie, excepté à Paris. Dès la banlieue qui entourait la ville, la mort morale commençait à peser. À cette époque, extérieurement paisible d'avant la guerre, l'ennui des petites villes de province française constituait peut-être une cruauté aussi réelle que des atrocités plus visibles. Des êtres humains, condamnés à passer ces années uniques, irremplaçables, entre le berceau et la tombe, dans un morne ennui, n'est-ce pas aussi atroce que la faim ou les massacres ? C'est Richelieu qui a commencé à jeter cette brume d'ennui sur la France, et elle n'a pas cessé depuis de devenir de plus en plus irrespirable. Au moment de la guerre, cela avait atteint le degré de l'asphyxie. Si l'État a tué moralement tout ce qui était, territorialement parlant, plus petit que lui, il a aussi transformé les frontières territoriales en murs de prison pour enfermer les pensées. Dès qu'on regarde l'histoire d'un peu près et hors des manuels, on est stupéfait de voir combien certaines époques, presque dépourvues de moyens matériels de communication, dépassaient la nôtre pour la richesse, la variété, la fécondité, l'intensité de vie dans les échanges de pensées à travers les plus vastes territoires. C'est le cas du Moyen-Âge, de l'Antiquité pré-romaine, de la période immédiatement antérieure aux temps historiques. De nos jours, avec la TSF, l'aviation, le développement des transports de toute espèce, l'imprimerie, la presse, le phénomène moderne de la nation enferme en petits compartiments séparés même une chose aussi naturellement universelle que la science. Les frontières, bien entendu, ne sont pas infranchissables, mais, de même que pour voyager, il faut en passer par une infinité de formalités ennuyeuses et pénibles. De même, tout contact avec une pensée étrangère, dans n'importe quel domaine, demande un effort mental pour passer la frontière. C'est un effort considérable, et beaucoup de gens ne consentent pas à le fournir. Même chez ceux qui le fournissent, le fait qu'un effort est indispensable empêche que des liens organiques puissent être noués par-dessus les frontières. Il est vrai qu'il existe des églises et des partis internationaux. Mais, quant aux églises, elles présentent le scandale intolérable de prêtres et de fidèles demandant à Dieu en même temps, avec les mêmes rites, les mêmes paroles, et il faut le supposer, un degré égal de foi et de pureté de cœur, la victoire militaire pour l'un ou l'autre de deux camps ennemis. Ce scandale date de loin. Mais dans notre siècle, la vie religieuse est subordonnée à celle de la nation plus qu'elle ne l'a jamais été. Quant aux partis, ou ils ne sont internationaux que par fiction, ou l'internationalisme y a la forme de la subordination totale à une certaine nation. Enfin, l'État a également supprimé tous les liens qui pouvaient, en dehors de la vie publique, donner une orientation à la fidélité. Autant la Révolution française, en supprimant les corporations, a favorisé le progrès technique, autant moralement elle a fait de mal, ou du moins, elle a consacré, achevé, un mal déjà partiellement accompli. On ne saurait trop répéter qu'aujourd'hui, quand on emploie ce mot, dans quelque milieu que ce soit, ce dont il s'agit n'a rien de commun avec les corporations. Une fois les corporations disparues, le travail est devenu, dans la vie individuelle des hommes, un moyen ayant pour fin correspondante l'argent. Il y a quelque part, dans les textes constitutifs de la Société des Nations, une phrase affirmant que le travail, désormais, ne serait plus une marchandise. C'était une plaisanterie du dernier mauvais goût. Nous vivons dans un siècle où quantité de braves gens, qui pensent être très loin de ce que Lévi-Bruhl nommait la mentalité pré-logique, ont cru à l'efficacité magique de la parole bien plus qu'aucun sauvage du fond de l'Australie. Quand on retire de la circulation commerciale un produit indispensable, on prévoit pour lui un autre mode de distribution. Rien de tel n'a été prévu pour le travail, qui, bien entendu, est demeuré une marchandise. Dès lors, la conscience professionnelle est simplement une modalité de la probité commerciale. Dans une société fondée sur les échanges, le plus grand poids de réprobation sociale tombe sur le vol et l'escroquerie, et notamment sur l'escroquerie du marchand qui vend de la marchandise avariée en garantissant qu'elle est bonne. De même, quand on vend son travail, la probité exige que l'on fournisse une marchandise d'une qualité qui réponde au prix. Mais la probité n'est pas la fidélité. Une très grande distance sépare ces deux vertus. Il y a un fort élément de fidélité dans la camaraderie ouvrière qui a été longtemps le mobile dominant de la vie syndicale. Mais plusieurs obstacles ont empêché cette fidélité de constituer un support solide de la vie morale. D'un côté, le mercantilisme de la vie sociale s'est étendu aussi au mouvement ouvrier, en mettant les questions de sous au premier plan. Or, plus les soucis d'argent dominent, plus l'esprit de fidélité disparaît. D'autre part, dans la mesure où le mouvement ouvrier est révolutionnaire, il échappe à cet inconvénient, mais contracte les faiblesses inhérentes à toute rébellion. Richelieu, dont certaines observations sont si prodigieusement lucides, dit avoir reconnu par expérience que, toutes choses égales d'ailleurs, des rebelles sont toujours moitié moins forts que les défenseurs du pouvoir officiel. Même si on pense soutenir une bonne cause, le sentiment d'être en rébellion affaiblit. Sans un mécanisme psychologique de ce genre, il ne pourrait y avoir aucune stabilité dans les sociétés humaines. Ce mécanisme explique l'emprise du Parti communiste. Les ouvriers révolutionnaires sont trop heureux d'avoir derrière eux un État qui donne à leur action ce caractère officiel, cette légitimité, cette réalité, que l'État seul confère, et qui, en même temps, est situé trop loin d'eux géographiquement pour pouvoir les dégoûter. De la même manière, les encyclopédistes, profondément mal à l'aise d'être en conflit avec leur propre souverain, avaient soif de la faveur des souverains de Prusse ou de Russie. On peut aussi comprendre, par cette analogie, que des militants ouvriers plus ou moins révolutionnaires, qui avaient résisté au prestige de la Russie, n'aient pas pu s'empêcher de succomber à celui de l'Allemagne. Or ceux qui se sont donnés tout entiers au parti communiste, les ouvriers ne peuvent pas trouver à la fidélité envers leur classe un objet assez précis, assez nettement délimité, pour en recevoir la stabilité intérieure. Peu de notions sont aussi indéterminées que celles de classe sociale. Marx, qui fait reposer sur elle tout son système, n'a jamais cherché à la définir, ni même simplement à l'étudier. Le seul renseignement qu'on puisse tirer de ses ouvrages concernant les classes sociales, c'est que ce sont des choses qui luttent. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas non plus une de ces notions qui, sans pouvoir être définies en paroles, sont claires pour la pensée. Il est encore plus difficile de la concevoir ou de la sentir sans définition que de la définir. La fidélité impliquée par une affiliation religieuse compte également assez peu, si singulier que ce soit, dans la vie moderne. Malgré des différences évidentes et considérables, un effet en un sens analogue est produit par le système anglais de l'Église nationale et par le système français de la séparation des Églises et de l'État. Seulement, le second semble plus destructeur. La religion a été proclamée une affaire privée. Selon les habitudes d'esprit actuelles, cela ne veut pas dire qu'elle réside dans le secret de l'âme, dans ce lieu profondément caché où même la conscience de chacun ne pénètre pas. Cela veut dire qu'elle est affaire de choix, d'opinion, de goût, presque de fantaisie, quelque chose comme le choix d'un parti politique ou même comme le choix d'une cravate, ou encore qu'elle est affaire de famille, d'éducation, d'entourage. Étant devenue une chose privée, elle perd le caractère obligatoire réservé aux choses publiques, et par suite n'a plus de titre incontesté à la fidélité.